cobuzz.com. Rencontre par Mark Zisman.
Rue des Saints-Pères jusqu'à la Seine, le pont du Carrousel serait un détour. Rendez-vous court carré avec mon amour. Dans 2 minutes, il faudrait que j'y cours. Le long du quai Malaquais jusqu'au pont des Arts. En 2 minutes, c'est impossible, je serai en retard. Juliette est une diva, Juliette n'attendra pas. Il manque un pont à Paris, le pont oblique, qui relie la cour carrée à la rue des Saints-Pères. Pourquoi diable aurait-on inventé la Seine si ce n'est pour qu'elle coule sous des ponts? Il manque un pont à Paris, le pont Juliette, qui relie la cour carrée à la rue des Saints-Pères. Juliette est une diva, Juliette n'attendra pas. Je n'ai le temps ni de courir ni de réfléchir. Du port des Saints-Pères, je me jette dans la Seine. Je nage en direction de la cour carrée. Traverser le fleuve à la nage à mon âge, ce ne sera rien. L'amour travaille pour moi. Je crée un nouveau pont de Paris, le pont Juliette. Ce pont est mon corps, ma foi, mon amour. Hélas, ma nage est oblique à contre-courant. Pourquoi le Louvre est-il si loin? Le fleuve roule contre moi, je m'acharne. Nage plus vite, pauvre corps, gare au retard. Juliette est une diva, Juliette n'attendra pas. J'aime Juliette d'amour fou depuis que je suis en âge de nager. Je nage et le Louvre s'éloigne de moi. Je nage à la rage et l'eau m'emporte. Loin de ce qui m'importe, je serai en retard. Juliette n'attendra pas, Juliette est une diva. J'aurais raté mon amour et j'aurais raté ma vie parce qu'il manquait un pont à Paris qui reliait ma vie à mon amour, le pont Juliette. La Seine a vaincu ma force et mon amour. Et ce n'est plus la Seine, mais l'Achéron, mais le Styx. Je nage de tout mon corps en direction des enfers, car les enfers regorgent de retardataires. La mort est une diva, la mort n'attendra pas.
Bonjour Gérard Joannest.
Bonjour monsieur.
Gérard Joannest, quand on parle de vous, en général, il y a toujours deux noms qu'on accole, c'est celui de Jacques Brel et celui de Juliette Gréco. Et il y a toujours aussi une formule qui est un peu celle de l'homme de l'ombre. Une position, je pense, qui vous plaît d'une certaine manière.
Oui, parce que j'aime bien être tranquille. Et puis c'était deux personnalités tellement fortes que je ne pouvais pas rivaliser avec eux. Hein. Avec Brel, bon, et puis Juliette, c'est pareil. Ils parlent mieux tous les deux que moi. Et puis j'aime bien être aussi tranquille, parce que quand je voyais avec Brel tous les fans qui étaient là tout le temps après lui, j'étais bien content d'être à l'abri dans un coin, qu'on ne s'occupe pas de moi.
Avant d'être à l'abri dans un coin, vous dites, j'avais vu une interview de vous, vous disiez que votre prix de conservatoire de Paris quand même, premier prix de piano, c'était l'une des choses dont vous étiez le plus fier. Quel était votre rapport à la musique à ce moment-là? Vous étiez assez doué, vous avez progressé assez rapidement. Qu'est-ce que ça représentait la musique pour vous? Quels étaient vos goûts? Est-ce que vous aviez des idoles?
J'aimais beaucoup le piano parce que, étant tout petit, mon grand-père était facteur de piano. Alors j'avais 3-4 ans, je touchais les claviers à les bras en l'air. Donc j'avais envie de faire ça et on ne m'a jamais obligé à le faire.
Et vous écoutiez quoi? C'est-à-dire comment vous écoutiez la musique? C'était à la radio? Vous aviez des disques? Comment ça? D'où est venue cette passion?
J'écoutais rien du tout. Parce que j'étais dans une famille pauvre, si l'on veut. Il n'y avait pas de magnétophone. À l'époque, il n'y avait pas de... La radio, il n'y avait pas grand-chose. Et puis, il n'y avait pas... Il aurait fallu avoir des phonos, mais enfin il n'y avait pas beaucoup d'occasions d'écouter la musique à cette époque-là. Je parle des années 40. Hein. Ouais. En plus c'était la période de la guerre, donc non. Mais je lisais les partitions, puis j'avais envie de les jouer. Voilà, c'est venu petit à petit, et les professeurs m'ont m'ont joué des choses, et puis les concerts, il n'y en avait pas beaucoup. Et puis même s'il y en avait, c'était très cher.
Vous imaginiez donc, comme concertiste ou pas?
Ben oui, le conservatoire, c'est fait pour ça. Mmh.
Est-ce que vous projetiez, vous imaginiez vraiment faisant une carrière, etc.?
J'étais quand même assez naïf. surtout mon père qui me voyait déjà...
En haut de l'affiche.
En haut de l'affiche, comme on dit, mais... Plus j'avançais, plus je voyais que c'était difficile, mais mon père était là. Alors pour mon père, j'ai continué jusqu'au bout, alors que je savais qu'après, ce serait très difficile d'être connu. Alors j'étais un petit peu connu dans des vagues trucs amateurs, parce que j'avais un oncle qui organisait des spectacles... pour les hôpitaux, pour les vieux dans les hôpitaux, vous voyez. Alors c'était presque tous les dimanches, je jouais en public. Ça m'apprenait à jouer quand même, à laisser passer le trac. Mais je jouais en public, alors j'étais un petit phénomène, si on veut, à 10 ans. Je jouais avec une fille qui était chez le même professeur. Et alors sur les programmes, il y avait écrit 20 ans à eux deux, vous voyez, ça faisait impression. Alors, et puis ça fait toujours bizarre quand on... Je jouais pas mal à 10 ans, donc ça fait... Bon, mais à 10 ans, on n'est pas encore concertiste.
Vous avez été dans la classe d'Yvonne Lefébure, je crois. Quel souvenir vous gardez d'elle?
J'ai terminé le conservatoire avec elle, parce que j'avais eu un deuxième prix avec son prédécesseur qui s'appelait Georges Delaunay, mais il n'était pas terrible. Mais Yvonne Lefébure était formidable comme professeur. Elle m'a fait tout recommencer. Alors j'avais un deuxième prix. Allez, on recommence tout. Vous tenez mal, on va faire de la technique autrement. Alors c'était gai. Je croyais que c'était arrivé. Deuxième prix, on recommence tout. Alors, donc je suis resté un an. J'ai passé un an entre le deuxième et le premier, où là j'ai raté la marche parce qu'elle m'avait tout chamboulé. Donc je me suis retrouvé avec un premier prix, mais elle me fait travailler comme une bête. Je faisais 10 heures par jour. J'allais chez elle pour travailler aussi, mais en plus des cours au conservatoire. Tout ça était gratuit, elle était vraiment formidable. Et elle m'a poussé jusqu'à ce que j'aie le premier prix. Parce que la dernière fois que je l'ai passé, c'était ça ou rien. Parce qu'après, c'était dehors. Au conservatoire, quand on reste 2 ans sans récompense, on est viré. Donc j'ai réussi à avoir le premier prix. Alors mon père était heureux et tout. Et puis, un mois après, elle a fait une réunion des élèves qui avaient été récompensés. Et puis, elle a dit à mon père, c'est maintenant, ben voilà, il va falloir qu'il... Qu'est-ce que vous allez faire de ce premier prix? Elle n'était pas encourageante. Il faudrait peut-être qu'il joue de l'orgue. Parce que travailler les prix internationaux, il fallait encore faire des années d'études. Finalement, tout s'est réglé rapidement. J'ai fait le service militaire tout de suite, six mois après le premier prix. Et là, j'ai fait 30 mois de service militaire. Bon, je ne vous raconte pas le service militaire. Bon, j'étais assez planqué parce que je me suis retrouvé quand même avec un piano au Maroc au bout de quelques mois. Et je suis revenu du service militaire. Et après un mois après mon retour, mon père est mort. Et là, il n'y avait plus rien comme revenu dans la maison.
Il fallait donc gagner la croûte.
Il a fallu que je travaille, faire du comment on appelle ça,
de l'alimentaire.
Ben oui, je me suis retrouvé à la brasserie le Chantilly, ça n'existe plus, ça c'était place Blanche, dans une brasserie où on jouait de 14h, le dimanche de 14h à 2h du matin. Et puis tous les soirs de 6h à 2h du matin, sans arrêt. Alors j'étais avec, c'était un orchestre Zigan, j'étais habillé en blanc, avec une écharpe rouge, là, et le violoniste qui était là depuis des années m'a dit, au bout d'un mois, arrête, tu ne vas plus savoir jouer de piano, il ne faut plus faire ça, parce que c'est un désastre. Et il a eu raison, je me suis arrêté, puis là, par chance, j'ai rencontré un gars qui m'a dit, je connais des gens qui cherchent un pianiste, c'était les trois ménestrels qui étaient un peu connus à l'époque, mais enfin bon. Et je les accompagnais, et là j'ai rencontré Brel, parce qu'il passait aux Trois Baudets. Et aux Trois Baudets, le spectacle durait toute l'année, le même spectacle. Alors dans le même spectacle, il y avait De Vos, il y avait Béart, il y avait Brel, il y avait un programme formidable. Et tous ces gens-là, on les voyait tous les jours.
À mon dernier repas, je veux voir mes frères et mes chiens et mes chats et le bord de la mer. À mon dernier repas, je veux voir mes voisins et puis quelques Chinois en guise de cousins. Et je veux qu'on y boive en plus du vin de messe, de ce vin si joli qu'on buvait en Arbois. Je veux qu'on y dévore après quelques soutanes une poule faisane venue du Périgord. Puis je veux qu'on m'emmène en haut de ma colline voir les arbres dormir en refermant leurs bras. Et puis je veux encore lancer des pierres au ciel en criant Dieu est mort une dernière fois. À mon dernier repas, je veux voir mon âne, mes poules et mes oies, mes vaches et mes femmes. À mon dernier repas, je veux voir cette drôlesse dont je fus maître et roi, ou qui furent mes maîtresses. Quand j'aurai dans la panse de quoi noyer la terre, je briserai mon verre pour faire le silence. Et chanterai à tue-tête à la mort qui s'avance les paillards de romance qui font peur aux nonnettes. Puis je veux qu'on m'emmène en haut de ma colline voir le soir qui chemine lentement vers la plaine. Et là, debout encore, j'insulterai les bourgeois sans crainte et sans remords une dernière fois. Après mon dernier pas, je veux que l'on s'en aille, qu'on finisse ripaille ailleurs que sous mon toit. Après mon dernier pas, je veux que l'on m'installe assis seul comme un roi accueillant ses vestales. Dans ma pipe, je brûlerai mes souvenirs d'enfance, mes rêves inachevés, mes restes d'espérance. Et je ne garderai pour habiller mon âme que l'idée d'un rosier et qu'un prénom de femme. Puis je regarderai le haut de ma colline qui danse, qui se devine, qui finit par sombrer. Et dans l'odeur des fleurs qui bientôt s'éteindra, je sais que j'aurai peur une dernière fois.
Sur l'aspect choc, il y a évidemment l'aspect humain, la rencontre humaine essentielle. Sur l'aspect musical, on part si on reprend votre parcours, cette formation au conservatoire classique, cette coupure forcée malheureusement, et ensuite vous rencontrez un chanteur avec une personnalité, avec une plume, avec quelque chose. Comment vous avez évolué musicalement à ce moment-là, cette claque que vous avez reçue en le rencontrant et en travaillant avec lui, en l'accompagnant sur scène?
Avant de le connaître, je connaissais la chanson par... j'avais fait quelques petits spectacles avec dans des hôpitaux pour les vieux, je jouais en soliste, j'avais 8, 9 ans, 10 ans, et de temps en temps j'accompagnais des amateurs, des chanteurs. Et ça c'était très difficile parce que c'était toujours la faute du pianiste s'il se trompait. Alors je trouvais ça pas très drôle, il me faisait transposer les trucs à vue, tout ça. Donc, et quand je me suis retrouvé avec des professionnels au trombonnet, d'un seul coup, Brel, ça m'a semblé...
C'était un ovni.
C'était presque du classique pour moi, parce que c'était une musique, c'était pas vraiment de la chanson traditionnelle. Quand il chantait « Quand on a que l'amour » ou je sais pas, enfin tout ce qu'il avait au début. Et ça m'a plu.
Ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'il y avait une personne essentielle à ce moment-là, musicalement, il y avait François Robert, qui est aussi quelqu'un d'une formation classique, conservatoire.
Voilà, François accompagnait Brel.
Voilà.
J'ai rencontré ces deux personnes, et ça m'a plu. Parce que François était très bon pianiste, en plus il faisait des accompagnements très, très recherchés. Donc ça c'était pas poum poum poum, c'était pas tralala. Donc ça m'a plu, et quand François a arrêté, j'ai rien demandé, mais Brel m'a demandé de le remplacer. Alors là j'étais heureux de quitter les Ménestrels, parce que c'était vraiment...
C'était pas le même.
Non, c'était le
même univers.
Non, voilà. Donc avec Brel, c'est vraiment un coup de chance de tomber avec lui, parce qu'on était aux trois Baudets. Sans quoi il ne m'aurait jamais rencontré, et puis et je ne l'aurais jamais rencontré non plus. C'est vraiment un coup incroyable.
Est-ce que ça veut dire que votre approche même de la musique a été vraiment bouleversée par rapport à ça, par rapport aux idées, aux conceptions que vous aviez de la musique, du piano,
de l'écriture ? Je suis toujours resté avec un esprit classique. Mais Brel adorait le classique, donc il me faisait jouer... Quand on répétait, il me faisait jouer des choses, du bac, comme je voyageais avec lui au début, il écoutait que du classique à la radio, il écoutait jamais les variétés. Alors le classique, surtout la nuit, c'était Radio Vatican. Alors on avait Radio Vatican, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas France Musique, France Culture et tout ça. Donc, et puis il écoutait des disques chez lui, et puis il adorait le classique. Donc il avait des chansons une chanson qui s'appelait La Mort, c'était Stravinsky. Il y avait plein de choses comme ça qu'il aimait beaucoup. Il écoutait jamais ses collègues, si on peut dire. Donc ça me plaisait aussi, parce que les chanteurs de variété, en général, bon, ça va pas très loin, quoi. Surtout musicalement. L'accompagnement avec lui, c'était et avec François, on se régalait, on cherchait des choses. C'est ça qui m'intéressait.
Quand on est comme ça, quand on accompagne et qu'on écrit, il y a une donnée qui est essentielle, c'est la voix de la personne qui va avec votre musique, ce qui sort de vos doigts, de votre piano, etc. Quel a été ce rapport avec la voix de Brel ? Et ensuite, on pourra peut-être enchaîner sur la même question par rapport à la voix de Juliette Gréco.
Ben Brel chantait très bien, hein. Il avait une voix puissante, et plus il chantait, mieux il chantait. Il travaillait pas du tout. Hein.
Quel impact ça avait sur votre jeu, sur votre piano, justement, ce côté un peu corps à corps entre cette voix et...
Ben
votre...
Moi, ça me poussait à jouer de plus en plus, mais je voyais bien qu'il... Plus ça allait, plus il était bon... au début, il chantait un peu comme Armand Mestral, je ne sais pas si vous avez connu. Il avait une voix très grave. Et puis, au fur et à mesure, comme on travaillait à peu près 300 jours par an, ça faisait un rodage de voix facile. Hein. Et plus il allait, plus il avait d'ampleur. Ce qui fait que même à son dernier disque, où il n'avait plus qu'un poumon, il avait autant de volume qu'avant. Donc il avait vraiment une... Il y a des chanteurs classiques qui venaient l'écouter après, au bout d'un moment. Et d'ailleurs, il y en a qui ont repris L'Homme de la Manche. Il ne chantait pas aussi bien que lui. Hein. Des classiques, il avait vraiment un volume et une étendue de voix formidable.
Alors,
pour Juliette, ouais. La valse, c'est un autre genre. Elle, on ne peut pas dire qu'elle a une voix de chanteuse, mais elle a un timbre spécial qui est beaucoup moins puissante que celle de Brel. Mais elle a quelque chose qui est aussi agréable à accompagner, parce que c'est très varié, c'est pas une chanteuse monotone. Ça, elle est pas monotone, ça c'est sûr.
Et comment justement on adapte, on fait évoluer son piano? Comment justement, quand il y a eu la transition, alors maintenant vous avez, l'habitude, l'évolution, vous maîtrisez le personnage et la voix.
Pour l'accompagnement, ça ne m'a pas beaucoup changé, parce que j'ai continué d'accompagner de la même manière, en cherchant des choses aussi. Puis François était toujours là. Et puis, pour l'accompagnement, il n'y a pas de problème.
Sur le pont Mirabeau, Guillaume Apollinaire revenait de la guerre, à sa tête un bandeau. Sur le pont Mirabeau, passe le mal-aimé. Il vient pour écouter les souvenirs de l'eau. Et il cherche dans l'eau où sont les jours de fête, où sont les baïonnettes que bravait Mirabeau. Sous le pont Mirabeau, Mirabeau s'est couché et s'est imaginé un lendemain plus beau. Et Mirabeau rêvait d'un pont Apollinaire. Pont révolutionnaire, direction liberté. Mais la révolution, Guillaume Apollinaire, est un cache-misère, un refrain sans chanson. Sur la scène apaisée passent des feuilles mortes que le courant emporte et des bouts de papier. Ton nom vient de Paris emportant vers l'oubli nos larmes englouties, nos projets, nos soucis. Déjà je ne vois plus ni mes joies ni mes peines, que les eaux de la Seine ont déjà confondu. Sous le pont Mirabeau, Mirabeau dort encore. Il dort jusqu'à l'aurore dans son très vieux manteau. Sur le pont Mirabeau, Guillaume Apollinaire, promeneur solitaire, voit son reflet dans l'eau. Viennent le jour et l'heure, et que coule le temps. Sur le pont des amants, c'est toi seul.
À chaque fois, effectivement, une autre personne qui intervient, c'est la personne qui écrit les textes dans une chanson. Donc, des paroliers, vous en avez aussi côtoyé un certain nombre.
Oui, mais là j'ai trouvé un grand trou après Brel. Je me demandais avec qui travailler, parce que avec lui, c'était vraiment. Il écrivait ses textes que sur les musiques. Donc, je faisais une musique.
Il vous donnait pas les textes avant, je crois, c'est ça en fait.
Ah non, j'ai jamais vu ces textes. Mmh. Sauf le dernier disque où il n'avait pas terminé deux chansons, et là, il m'a montré. Sans quoi, jamais j'ai vu ces textes. Il écrivait pas sur une page comme ça dans le vide. Il fallait qu'il ait de la musique. Alors, c'était soit sa musique à lui avec sa guitare, soit la musique du piano. Avec François ou avec moi, et quand il a arrêté, là j'ai senti un vide. Alors j'ai travaillé un petit peu avec Henri Tachant, beaucoup avec Maurice Fanon, mais lui c'était, il avait un peu le même système que Brel, il écrivait sur les musiques, mais pour travailler c'était plus compliqué. Parce qu'il n'était pas toujours à jeun. Enfin bon, c'était un peu la vie de Patachon. Puisque Brel était très sérieux pour travailler. Puis après, j'ai travaillé avec Henri Gougaud. Alors lui, il est sérieux, mais c'était calme, quoi. Enfin bon, je ne l'accompagnais pas, c'était pas la même ambiance. Quand on travaille avec quelqu'un avec qui on vit, je vivais avec Brel 300 jours par an, j'étais tout le temps avec lui. Tandis qu'avec les autres, bah, je les rencontrais, on se donnait rendez-vous, puis après, bonsoir. Donc, c'était plus du tout la même ambiance. Après, j'ai travaillé aussi avec Jean-Claude Carrière, et puis dernièrement, avec. Là, dans le dernier disque, avec des gens que j'ai même pas rencontrés. Amélie Nothomb, je l'ai vue le jour de l'enregistrement. Enfin, c'est pas pareil. Là, j'ai fait des musiques sans des textes.
C'est ce que j'allais vous dire justement. Alors, les musiques de cet album, Ça se traverse et c'est beau, donc sortent un peu d'hommage à Paris. Il y a les pièces sur lesquelles vous participez, il y a des cordes qui sont arrangées. Comment s'est passée l'écriture de ces pièces-là?
Celle où Juliette parle, elle chante pas. Il suffisait de mettre une musique sur un texte. Alors, ça, c'est facile. C'est plus facile que d'écrire une chanson où il faut. Il faut que les mots tombent sur les notes. Là, Solers m'a donné un texte, et puis j'ai lu le texte, et puis au fur et à mesure, j'écrivais à la musique sur le.
Est-ce que c'est des choses qui viennent facilement pour vous? Parce que on pourrait dire avec l'expérience, avec l'âge, etc., vous avez une aisance, une facilité sans doute d'écriture, mais par exemple, si on prend cet exemple-là, on vous donne un texte, Solers vous donne un texte. Est-ce que c'est très rapidement les idées de musique, de son, d'instrumentation vous viennent à l'esprit de mélodie?
Oui, pour même avec Carrière, alors c'était tout le temps les ponts, alors là, il fallait mettre de l'eau un peu partout. Mais pour moi c'était plus facile, puisque la musique était libre. Sauf un Mirabeau sous le pont, Juliette chante. Mais Amélie Nothomb et puis Carrière et Solers, voilà, c'était facile. Alors ça leur a plu. Bon, Marie Nimier, j'avais déjà travaillé avec elle. Là, il y a un mélange de textes et de chansons. Là, j'ai fait les deux. Bon, ça vient. C'est peut-être le métier qui est là. C'est venu assez facilement finalement.
Comment vous trouvez qu'évolue la voix de votre femme, de Juliette Gréco, notamment sur cet album? Vous la connaissez trop, vous l'avez trop en tête?
Oui, c'est pas facile de...
Quand vous écoutez le résultat, quand vous écoutez ce nouvel album, qu'est-ce que...
Les chansons chantées, elle chante quand elle a envie, sans quoi elle parle un peu en route, et puis les chansons parlées, elle le dit très bien... Elle sait réciter les choses. Ça, il n'y a pas de problème. Mais pour les autres titres, c'était une ambiance assez spéciale, parce qu'il y avait Goldstein qui a fait les arrangements sur mes titres. J'avais déjà fait un disque avec lui, pas le précédent, mais celui d'avant. Et bon, il fait les arrangements à sa manière, mais il garde vraiment tout ce que j'ai fait à la base. presque trop, parce que moi j'aime bien quand on en rajoute. Alors lui, il a peur que je sais pas. Il est très fidèle à ce que j'ai fait au départ. Alors qu'avec François, lui partait dans des choses plus compliquées. Ça me plaisait quand même. Moi, mais avec François, c'est pareil qu'avec Brel, je ne retrouverai jamais le même orchestrateur que François Robert. Parce que lui, c'était tellement riche, tout ce qu'il faisait, c'était... Bon, avec le Goldstein, il respecte ce que j'ai fait. Et puis les autres chansons de Marc Lavoine et... Je ne sais plus ce qu'il y a, Féfé. Ça, c'est un autre arrangeur qui était là. Bah, je ne me suis pas occupé du tout.
Il portait une écharpe bleue, été comme hiver. Parfois, enroulée autour de son cou. Parfois, flottant au vent. On se voyait de loin. Je courais, nous courions. Nous avions le même âge, mais... Il avait l'air plus vieux. Nous étions amoureux. J'étais un peu gauche. Il se tenait bien droit, très silencieux. Quand il parlait, c'était avec un accent. Je ne savais pas où il habitait. Nous nous donnions toujours rendez-vous sur le plus vieux pont de Paris, que l'on nomme Pont Neuf. Les Français, disait-il. Mais il ne terminait pas sa phrase. Si je voulais lui écrire, je n'avais qu'à lui glisser un mot dans les buissons du Vert-Galant. C'était notre domaine, ce pont. Notre nid, notre raison de vivre. Une salle de bal de 238 mètres de long et 20 mètres de large. Sacrée surface, quand on y pense. Longtemps, je n'ai pas connu son nom. Je l'appelais l'homme du pont Neuf, l'homme du pont New. Les semaines passant, il devint l'homme du pont Nine, puis l'homme du pont, tout court. Celui qui dépassait tous les autres en mystère. Mes amis se moquaient de moi. Moi, je m'en moquais qu'elles se moquent. Nous, au moins, c'était du sérieux. Un samedi, il ne vint pas. J'attendis plus d'une heure, côté quai des Orfèvres. J'allais repartir quand une jeune femme qui lui ressemblait s'approcha timidement de moi. Sous mes pieds, les pavés sont devenus tout mous. Peter avait eu un accident. Peter, l'homme du pont, s'appelait Peter. C'était grave, oui, il était dans le coma. J'aurais pu demander à le voir, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas réussi à articuler un mot. Le temps d'un bateau mouche et ses 30 ans qui passent. Aujourd'hui il pleut, de ses pluies glacées de l'hiver, sans éclat. Sans charme, sans rien. Je vis loin des lumières dans un endroit où il n'y a pas de fleuve. Ma chambre donne côté jardin. Comment ai-je pu laisser repartir cette jeune femme sans un mot de réconfort, sans lui demander son adresse ou l'adresse de l'hôpital? Elle aussi avait un petit accent. L'homme du pont est-il encore vivant? Je dors chaque jour un peu plus mal. Je me réveille en lui parlant. J'ai rêvé l'autre nuit que le pont s'écroulait dans un tremblement de terre. Et puis l'instant d'après, c'était la ville entière qui tombait en poussière. Et le pont qui tenait debout, tout seul, préservé par la force magique de notre lien. L'instant d'après encore, le pont se mettait à fondre et s'agenouillait dans l'eau comme un cheval blessé, pliait l'échine, puis se disloquait en silence.
ça m'agace cette image, comme une pomme acide agace les dents. Si au moins il y avait eu du bruit, le corps serait dit, il ne veut pas que ça se termine. Peter, il s'appelait Peter, Pierre en français.
Quand vous travaillez avec des plumes, j'allais dire, de la jeune génération, que ce soit Miossec ou Abdel Malik, etc., c'est des choses qui vous stimulent, qui vous, c'est intéressant de confronter des générations, des approches musicales, des univers différents.
Ah oui, j'ai oublié d'en parler de ces deux-là, parce que surtout Malik, Abdel Malik, lui m'a bluffé, parce que il travaille comme Brel, c'est curieux. Je joue un truc, il dit recommence, et il écrit au fur et à mesure. Alors ça, j'avais jamais revu ça. La première trite que j'ai fait avec lui, il l'a fait quasiment à la maison quand il est venu. Alors que c'était pas du tout prévu. Hein. Il voulait me rencontrer. Et puis il m'a dit, vous pouvez me jouer quelque chose? Bon, bah, je joue un truc comme ça. Et puis là, vous pouvez continuer comme faisait Brel. Parce que lui, il fallait recommencer. Pendant quasiment une heure, on jouait le même truc. Il demandait un papier, un crayon, il n'avait rien avec lui. Et puis là, il s'est mis à écrire. Puis je le voyais gratter et tout. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Brel est devenu noir d'un seul coup. Et puis il a écrit. Alors donc, ce n'était pas des chansons, c'est des textes, mais ça fait une drôle d'impression. Alors qu'avec Miossec, c'est encore autre chose. Alors lui, je lui donne des musiques. Et puis alors, il fait un peu ce qu'il veut dessus. Et puis. Quand je le rencontre, je râle parce qu'il n'y a pas le même nombre de pieds que mes notes. On me dit, ah oui, ben oui, mais... alors bon, il essaie de faire, de se rapprocher de ce que j'ai fait, mais il a du mal. Mais il avait peur de moi au début. Tu vas, calme-toi, c'est pas là. Mais il a du mal à...
communiquer.
Non, parce que maintenant on se connaît bien. Mais... rester rigoureux sur les textes. Et ça, c'est difficile de... Alors, il en fait qu'à sa tête, alors bon. Alors je lui dis, bon, ben ça va pas, on laisse tomber. Alors, bon. Et puis, on en a fait quelques-unes quand même, mais c'est difficile.
Il va y avoir un peu de scène là qui va arriver, des concerts. La scène, comment vous appréhendez ça? C'est quelque chose de complètement différent. Là, vous êtes dans l'ombre en général, sur le côté aussi.
Oui, bah, la scène, il faut bien que je, faut bien que j'y sois.
C'est quelque chose que vous aimez, le côté, l'imprévu de la scène, du concert. Vous faites avec ou c'est pas, vous êtes plus à l'aise finalement quand vous êtes dans un studio, quand vous êtes.
Non, le studio, ça m'emballe pas parce qu'il n'y a personne. Et puis. Non, le studio, moi j'étais habitué à faire de la scène quand même. Avec Brel, et puis avec Juliette. Non, j'aime bien la scène parce que il y a moi quelqu'un, y a des gens qui écoutent, quoi, qui sont là. Mais j'en ai fait tellement maintenant que j'ai toujours un petit peu d'appréhension, mais enfin, quand je compare avec le conservatoire. C'est quand même de la rigolade. Hein. Quand on est pour passer le premier prix et que le public qui est dans la salle est là pour vous critiquer et pour attendre les fausses notes, c'est pas du tout la même chose que quand on accompagne un chanteur ou une chanteuse. Bon, bah, si on fait un pain, ou et puis même si le chanteur ou la chanteuse se trompe, il va pas être sorti de la salle. Hein. Alors que quand on fait le conservatoire et qu'on rate le truc, l'année est ratée. Hein. C'est pas la même appréhension.
Quand il vous reste un peu de temps, quand vous en faites pas de la musique, est-ce que vous en écoutez? Est-ce que vous écoutez de la musique chez vous? Vous mettez des disques, vous écoutez la radio? Est-ce que pas spécialement?
Non. En général, j'ai pas eu l'habitude d'écouter et j'aime beaucoup mieux jouer. Du Bach, du Chopin, parce que je joue toujours du classique. J'aime beaucoup mieux les jouer moi-même
que d'écouter par
que d'écouter les autres, ça me fait plus d'émotion de jouer moi-même les choses. Je pioche dans toutes mes partitions, parce que j'en ai quand même pas mal, et je joue les choses qui me plaisent, mais j'aime bien c'est peut-être un défaut, hein, mais on peut pas dire que je copie sur quelqu'un puisque j'écoute pas.
Alors on vous retrouvera pour votre prochain album, peut-être un album Bach ou Mozart, on sait jamais.
tout seul, mais c'est difficile, hein. Avec Brel, il avait essayé de me... Je faisais la première partie en jouant une Rhapsody de Liszt, du Bach et du Mozart, dans sa première partie. Et à la fin du spectacle, il y en a qui venaient me dire « Elle était bien la Rhapsody, mais on a entendu que Zifra, c'était quand même... » Alors bon...
Merci Gérard Jounest.
Je vous en prie.
Il se rêve debout et ça lui va pas bien parce que sans geste ni parole, il te reste rien. Rien qu'un cœur, et je peux te dire qu'avec cet œil, des fois on voit rien de bien. Il y a des moments comme ça dans la vie où c'est tout ou bien rien. Il se rêve debout et ces derniers temps, c'est moins tout que rien. Et puis, il n'a ni geste ni parole, il lui reste rien. Rien qu'un cœur pour voir quand de l'amour, et ben y a rien. Et ça va? Il aurait répondu bien. Même si ça va plus mal que bien. Il se rêve debout et à y voir plus près, c'est triste dans sa condition, mais vous à sa place, vous chanteriez quoi comme chanson, hein? Parce que ça change tout d'être obligé de vivre à condition que les autres ils se trompent pas lorsqu'ils interprètent votre partition. Il se rêve debout et c'est sans condition qu'il se lève, assis ou allongé, la même chanson. C'est évident qu'il pourra plus jamais danser comme ces cons, comme ces types qu'il dénigrait avant et qui le négligent pour d'autres raisons. Il se rêve debout pour vivre en mourant, pour survivre dans un monde où les morts se prennent pour des vivants. Fonctionnaires d'une existence qui vivent bêtement parce qu'ils ont peur de chaque instant. Ils se rêvent debout et la voilà en blanc, sourire réflexe et geste indifférent. Bonjour, dit-elle en entrant. Bonjour, dit-il en pensant. Rêve debout comme ceux qui apprécient l'instant, comme ceux qui savent que de toute façon tout ça dure qu'un temps. Il se rêve debout quand elle lui parle, il l'écoute. Faut dire qu'il l'était debout avant le drame sur la route. Elle l'entoure de ses bras et le fait s'asseoir. Il lui reste rien, il lui reste ni geste ni parole, mais il peut voir. Il se rêve debout lorsque sur son fauteuil elle le pousse. Dites donc, ça a l'air d'aller aujourd'hui, crie-t-elle. On va vous faire une bonne douche.
Cobuzz.com Rencontre par Marc Zisman.